au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. Nous retrouvons ce soir Stéphane Gueudicke, germaniste, enseignant en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand et auteur d'un roman étonnant intitulé « Mémoire fantôme » aux éditions Passage. Le sous-titre de cet ouvrage est « Alex et Otto », deux personnages centraux au cœur de l'intrigue. Stéphane Gueudicke, bonsoir.
Bonsoir, Yankel Fijalkov.
Qui sont ces personnages Alex et Otto ?
Alex et Otto, comme c'est dit assez vite dans le roman, ce sont mes deux grands-pères. Donc, par ordre alphabétique, Alex, mon grand-père juif, roumain, émigré en France enfant à l'âge de 5 ans, donc on est à la fin des années 20. Et je l'ai connu, il est mort en 2000, donc c'est le grand-père que j'ai bien connu. Et Otto, c'est mon grand-père paternel, le père de mon père. Il était allemand, natif de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Il a vécu à Hambourg. Et lui, je ne l'ai pas connu pour une bonne raison, c'est qu'il est mort 15 jours avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Bien, alors on va commencer peut-être à ouvrir l'intrigue. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question de curiosité. Je vois écrit « roman ». Dans la cinquième ou sixième de couverture. Est-ce que c'est un roman ?
Alors, c'est une excellente question. C'est un tout petit peu abusif, peut-être, mais au sens où ces personnages ont réellement existé. Ce ne sont pas des personnages fictifs, mais j'avoue que c'est l'éditeur qui a fait cette proposition dans un premier temps. Et je l'ai accepté pour la bonne raison que d'abord, le roman, c'est un genre très vague, finalement, au contour flou. C'est l'écrivain allemand Thomas Mann qui parlait de l'estomac de requin du roman. On peut tout faire entrer dans un roman. Un critique littéraire français a appelé le roman le plus lawless de tous les genres. C'est un genre sans loi, contrairement aux autres catégories qui sont très clairement définies, parfois par des lois millénaires. Et puis, c'est aussi un roman dans un autre sens, un sens plus personnel. Je développe assez vite dans mon texte la conception de roman mental, parce qu'on vit tous avec un roman de notre vie. Nous sommes tous les narrateurs de nous-mêmes, d'une certaine manière. Et dans ce sens-là aussi, c'est un des romans de ma vie.
Oui, et on pourrait dire aussi que c'est un roman familial et que vous croisez les romans familiaux au sein de votre famille et que vous dialoguez avec eux.
Bien sûr, oui. C'est un roman pluriel puisque non seulement c'est le roman de ma vie tel que je me suis construit, enfin, on a tous un récit de nos origines, mais ce sont aussi les romans des origines de mon père, de ma mère, de différents personnages de la famille, et on s'aperçoit que tous ces romans parfois s'écrivent à l'insu les uns des autres, et puis quand ils finissent par se croiser, on a bien des surprises.
Alors, ce livre qui est assez épais, je crois qu'il fait quelque chose comme 470 pages.
Oui, c'est ça.
Est une recherche personnelle aussi, sur les deux composantes de votre identité.
Bien sûr, c'est une enquête, hein, d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça.
Une enquête policière, presque.
C'est quasiment une enquête policière, exactement. Je suis parti sur les traces de mes deux grands-pères dont on ne savait pas toujours beaucoup de choses, et j'ai fini par retrouver des traces dans toutes sortes d'endroits différents, auprès de témoins, auprès des membres de ma famille, certains que je n'avais jamais rencontrés, que j'ai rencontrés à cette occasion, et puis bien sûr dans les archives. Et c'est une chose qui m'a bluffé moi-même, c'est l'ampleur des traces que laisse une vie, l'ampleur des traces que nous laissons quand nous nous faisons enregistrer, quand nous demandons des papiers. Et puis, ces traces nous semblent souvent bien anodines, parfois un peu enquiquinantes ou intrusives. en réalité, elles sont précieuses pour le chercheur quand on essaye de reconstruire ce que fut la vie des autres.
Alors, vous considérez effectivement comme un chercheur d'identité personnelle. Et combien de temps a duré cette recherche et pourquoi vous êtes engagé personnellement dans celle-ci ?
Alors, combien de temps ? Ça, c'est la question plus facile. Longtemps, une dizaine d'années environ.
Voilà, c'est le fruit d'une dizaine d'années, cet ouvrage.
C'est vraiment le fruit d'une dizaine d'années de recherche, pour la bonne raison que je ne suis pas un enquêteur professionnel, que j'ai un métier, que j'ai une famille, que ça prend du temps et que ces recherches sont effectuées sur mes congés, sur mes vacances, sur mon temps libre, sur mes week-ends et que je les fais avec passion.
Oui. Et personnellement, vous vouliez absolument trouver des origines, des racines.
Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ça, c'est toujours une question un petit peu plus vague ou plus délicate, je ne sais pas. Je me souviens précisément que depuis, on va dire, la fin de l'enfance ou le début de l'adolescence, j'ai eu la conscience de cet héritage tout à fait binaire, opposé. Quand j'ai commencé à comprendre ce que les Allemands ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand j'ai commencé à comprendre ce que ça signifiait, que mon grand-père allemand était un soldat de la Wehrmacht, un officier de la Wehrmacht, et qu'il a été, comme on le disait, un membre du parti nazi également. Et quand j'ai compris ce que les Allemands avaient fait aux Juifs, et que mon autre grand-père, celui que je connaissais bien, était juif, et j'ai pris conscience de cette ambivalence des origines. Et puis, je me suis senti le fruit d'un hasard faramineux, quelque part. Et ça m'a travaillé de façon diffuse, d'abord. Et puis, je ne saurais pas dire exactement quand ça m'a pris, mais j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces deux grands-pères.
Alors, on va ouvrir peut-être le dossier des deux grands-pères. Et on va commencer peut-être par Alex, parce que Alex, il vous est de moins en moins antipathique. Ça veut dire qu'au départ, il est antipathique.
Tout à fait. Alors Alex...
Et ça c'est la partie drôle du bouquin, quoi.
C'est la partie drôle, effectivement. Je présente ça comme une nouvelle opposition. Hein. Le juif, la victime, pour qui je devrais avoir de la sympathie, de la compassion, en réalité... Il n'en a rien été, c'était pas un grand-père très agréable, il faut le dire, même si moi j'ai pas spécialement souffert de ce grand-père, ce n'était que mon grand-père, je n'ai pas vécu sous son toit, contrairement à ma mère qui, elle, m'a souvent dit à quel point elle avait souffert de son père à elle, et bon, pour moi c'était un grand-père plutôt distant.
Un grand-père Mais il se rendait quand même typiquement antipathique.
Il se rendait antipathique. Ça,
qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, pour être antipathique ?
Alors, je décris pas mal de scènes dans le roman qui sont des scènes de l'enfance. Il était extrêmement pinailleur, surtout. Il ne nous donnait jamais raison sur rien. Quand on s'exprimait, qu'on oubliait les négations, il nous corrigeait inlassablement sur les petites négations. Quand on a 7-8 ans... C'est pas ça qui nous intéresse le plus. On aimerait construire une relation avec un grand-père aimant et pas un grand-père qui nous reprend sur tout. Il ne participait pas vraiment à la vie de famille.
Il faisait des mots croisés pendant les jours de fête.
C'est ça.
Voilà.
Il se mettait ostensiblement à l'écart. Et puis j'ai en mémoire aussi, bien sûr, l'opposition, l'antipathie profonde qui l'opposait à mon père également. Hein.
Et donc, petit à petit, il vous est moins antipathique. Il vous est moins antipathique parce que vous essayez de comprendre son trajet. Et quel est-il, ce trajet ? C'est une drôle d'enfance.
Alors,
aussi.
C'est une drôle d'enfance.
Et des drôles de parents aussi.
Et des drôles de parents. Et je dois dire que, hélas, c'est après sa mort que j'ai pris conscience de tout ça. Je savais des bribes de son enfance. Je savais qu'il n'avait pas eu une enfance très rigolote. Mais c'est après sa mort que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait vécu auparavant. Et donc, pour le dire en quelques mots, il est né en Bessarabie, dans une ville qui s'appelait Ackermann et qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, non loin d'Odessa. Ses parents le confient en fait très vite à ses grands-parents parce que ses parents sont tous les deux artistes. et visiblement avoir un enfant, ça les encombre un petit peu. Donc il est élevé jusqu'à l'âge de 5 ans par ses grands-parents, essentiellement à Kerman, sur les rives de la mer Noire. Et puis à 5 ans, ses parents décident de le faire venir. Après s'être établi à Berlin, il s'installe à Paris, et donc c'est à Paris qu'ils le font venir en 1927. Et donc ici, mon grand-père Alex suit d'abord une scolarité compliquée, d'école en école, puis d'internat en internat. Il est séparé de ses parents et il ne comprend pas pourquoi on le fait venir de si loin, lui qui ne parlait pas un mot de français, qui était russophone, et dont l'adaptation était difficile, pour ensuite l'éloigner à nouveau. Il était très malheureux en internat. Ses parents finissent par divorcer à la fin des années 30. Et puis donc, il passe son bac. Ça, j'en ai eu conscience très tard. J'ai jamais su. Il passe son bac à la session de juin-juillet 1940. Donc, ouais. Pendant que les Allemands attaquent Paris, lui, jeune étudiant juif, enfin jeune lycéen juif, passe son baccalauréat dans des circonstances que j'imagine compliquées.
Voilà, et il poursuit ses études universitaires ensuite, pendant la guerre, en traversant Paris avec une étoile jaune qu'il cache en partie.
Tout à fait.
Voilà, donc, et puis d'autres événements que vous racontez, quand il passe en zone libre, qui n'est plus zone libre ensuite, et qu'il est caché. Sa mère était un personnage aussi. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé le portrait de sa mère, Rachel, certainement.
Tout à fait.
Qui était une russe, artiste, très impétueuse, un peu mal élevée, il faut le dire.
Oui, c'était un personnage haut en couleur. Alors, elle aussi, j'ai quelques souvenirs d'elle parce qu'elle est décédée, je devais avoir 5-6 ans par là. Voilà, je me souviens en particulier de son accent russe à couper au couteau. Elle roulait les airs, oui. Très fort. Elle m'appelait Stepan. J'étais son arrière-petit-fils, son premier. Et cette femme très haute en couleur, je ne sais pas si elle était réellement artiste. Je pense qu'elle se concevait comme telle. Elle aurait certainement aimé être une muse. Mais bon, sa beauté peut-être un peu approximative ne lui a pas autorisé cette fantaisie. Son mari, lui, était musicien, un musicien de renom à l'époque,
oui,
un pianiste reconnu, voilà. Tout à fait reconnu. Oui.
Plus reconnu. Et alors, ce qui est curieux quand même, on va passer à l'autre cas, Otto, parce que ce qui est curieux, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a beaucoup de traces et d'archives concernant Alex, mais assez peu sur Otto. Et sur Otto, il faut se satisfaire de la mémoire familiale, ou comme on disait tout à l'heure, le roman familial. Expliquez-nous un petit peu qui est Otto et qu'est-ce que vous avez pu savoir de lui.
Alors Otto, c'est le père de mon père. J'ai su peu de choses de lui, puisque quand j'étais enfant, je demandais à mon papa comment lui, il voyait son papa, et bon, en fait, il ne l'a jamais connu. Il est décédé quand mon père avait 5 ans, et la plupart de ses 5 ans, la plus grande partie de ses 5 ans, il était en guerre, donc il n'a presque jamais eu son père. Otto, ce que j'en sais, c'est qu'il est né en 1896, il participe à la Première Guerre mondiale en tant que tout jeune homme. Et puis, entre les deux guerres, il s'installe et il mène une vie de famille comme tout le monde. Et il devient moniteur d'auto-école, ce qui est plutôt rare à l'époque.
Passionné de voiture.
Voilà, passionné de voiture. Ça, c'est quelque chose qui anime un certain nombre d'hommes dans ma famille. Pas moi, mais pas mal d'hommes d'autres générations. Pour certains, ça prend des proportions assez amusantes ou ahurissantes. Et voilà, ce moniteur d'auto-école, de ce qu'on m'a toujours dit, a adhéré au Parti national-socialiste peu après l'accession au pouvoir d'Hitler.
Et il a été SA.
Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu jusqu'à ce que j'aille interviewer ma tante, la sœur aînée de mon père, qui me l'a certifié, qu'il était SA, qu'elle se souvient parfaitement que... Elle voulait lui cirer ses bottes de SA au moment où il se rendait à ses réunions. La vérité, c'est que c'est incertain. et en fait improbable, je crois, parce que je n'ai jamais trouvé la moindre trace de ça dans les archives. Et même s'il est vrai que beaucoup d'archives allemandes ont été détruites pendant la guerre, il est vraisemblable que j'en aurais trouvé des traces s'il avait été SA. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a certifié en tout cas à Fribourg, à l'archive militaire de la Wehrmacht. Mmh. Et voilà, j'ai retrouvé son numéro d'adhérent au parti nazi. Ça permet de le dater avec précision, mais je n'ai jamais trouvé la moindre trace de son appartenance aux inquiétants SA.
Alors, le roman familial dit qu'il était sympathique. Et alors, votre avis là-dessus?
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Mais vous êtes formé quand même une petite opinion.
Je me suis... Oui, c'est vrai. À travers les quelques traces qu'il a laissées ne me le rendent pas à moi spécialement sympathique, mais la vérité, c'est que ces traces sont très maigres. Et qui suis-je pour juger de la sympathie ou non d'un homme à travers une ou deux lettres qu'il a laissées, une ou deux cartes postales? Ce serait bien présomptueux de ma part de le juger là-dessus, même s'il est vrai que ces cartes et ces lettres me semblent un peu froides à moi. Mais ceux qui l'ont connu me l'ont dépeint comme un homme drôle et enjoué, un séducteur, quelqu'un qui aimait la vie. Ça, c'est, on me l'a toujours dit.
Alors, le grand mystère, c'est le mystère des causes de son décès, en fait. Et là, c'est là que vous enquêtez.
Alors, c'est là que j'enquête.
On ne va pas tout dévoiler, mais il y a plusieurs pistes.
Voilà, on ne va pas tout dévoiler. Effectivement,
c'est le suspense.
Un des ressorts de ce texte qui... dont j'ai fait une enquête. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à une date assez récente, moi, je n'avais qu'un seul récit, c'était celui de mon père. Et au début des années 2000 ou au milieu des années 2000, a surgi un autre récit, c'est celui de la sœur de mon père. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ces deux récits sont en contradiction totale. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'un frère et une sœur grandissent pendant plus de 60 ans avec des récits non seulement totalement opposés de la mort de leur père, mais en plus en s'ignorant totalement. Mon père était persuadé que lui et ses deux sœurs avaient le même récit que lui. Et la sœur aînée de mon père était persuadée que son frère et sa sœur avaient le même récit qu'elle. Et la troisième sœur, elle, en fait, j'ai jamais réussi à déterminer si elle avait un récit de la mort de son père.
Et vous avez provoqué, en fait, au sein de la famille, cette division. Ils croyaient être d'accord de manière tacite, et en fait, ils ne le sont pas.
Alors, pas tout à fait.
Vous avez un rôle dans tout ça.
Voilà, mais en réalité, c'est par mon frère que j'ai appris qu'il y avait un autre récit que celui de notre père. Et une fois que j'ai su ça, évidemment, je me suis mis en quête de ces récits et je suis allé les collecter à la source et j'ai fait parler les uns et les autres, donc aussi des oncles, des tantes, et puis je suis allé dans les archives pour essayer de déterminer donc quelles ont été ou pu être les causes de la mort de mon grand-père.
Oui, et donc là, il y a plusieurs hypothèses, mais là, on va laisser le suspense au lecteur.
Ce qu'on peut en dire, c'est juste peut-être qu'il est mort le 23 avril 1945, et ça, c'est quand même cruel, parce que c'est très exactement 15 jours avant l'armistice, et tout le monde s'est dit que s'il avait tenu 15 jours de plus... Ils auraient eu un père, un mari, un oncle. Et voilà, c'est un déchirement pour toute famille que de perdre quelqu'un, et qui plus est, dans les tout derniers jours d'un conflit comme celui-là.
Oui, et finalement, pour revenir à cette question des deux grands-pères, il se joue votre identité dans ces deux grands-pères. Et vous avez des passages magnifiques dans lesquels vous évoquez votre rapport à la langue allemande, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que vous êtes germaniste, enseignant d'allemand, et que finalement, votre rapport à la langue allemande et à la langue en général, est tracé finalement par cette histoire des deux grands-pères.
Oui, absolument. C'est vrai que, d'une certaine manière, je viens de là. Mes parents viennent d'Allemagne. Parce que ma mère est née en Allemagne également. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. puisque mon grand-père juif a épousé une Allemande au sortir de la guerre. Donc il est vrai que l'allemand imprègne ma famille et que j'ai choisi aussi d'en faire mon métier. L'allemand, c'est ma langue maternelle. J'ai d'abord grandi en allemand, bien que né en France. Mes deux parents m'ont parlé allemand, petit. Et puis j'ai appris le français en étant scolarisé. Il paraît que je parlais français avec un lourd accent allemand au début. Et ça, je m'en souviens évidemment pas. Et l'allemand, c'est pour moi une langue... c'est la langue de l'enfance, mais c'est en même temps une langue étrangère, puisque je n'ai, pour ainsi dire, jamais vécu en Allemagne. Et j'ai un rapport, mélancolique et amoureux à cette langue allemande qui est ma langue maternelle sans l'être réellement.
Qui est la langue aussi ennemie.
Qui est la langue, bien sûr, qui est la langue de l'ennemi, qui est la langue qui a été saccagée par 12 années de national-socialisme. La langue que certains... Allemands n'ont plus jamais voulu parler, certains juifs allemands, la langue conflictuelle de Paul Celan, le poète qui a pourtant choisi malgré tout de continuer à écrire et à faire de la poésie en allemand.
Oui, et de continuer à écrire en allemand. Et vous, vous vous sentez parcouru par ce que vous appelez aussi des spasmes identitaires.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous entendez par la expression ?
Ah ben, bon, c'est pour dire que, notamment dans la phase de rédaction de ce livre, il y avait des moments où je me sentais tantôt plus proche d'une sphère et tantôt plus proche de l'autre sphère, tantôt plus proche d'un des grands-pères et tantôt de l'autre. La sphère germanique, de par mon métier, c'est évidemment une sphère qui m'est très familière. Je baigne dans la littérature allemande, c'est mon métier et c'est ma passion. Et à d'autres moments, je me sentais attiré par mon autre grand-père, Alex, par l'Ukraine, par tous ceux vers quoi ça faisait signe. Et je me sens à la fois juif et allemand, à la fois étranger et français. Et ouais. C'est ça que j'appelle
spasme identitaire. Et dans ce point commun, il y a aussi Paris, puisque au fond, ils ont été tous les deux, vos deux grands-pères, à Paris pendant la guerre. L'un à Paris, disons, intramuros, et l'autre, pas très loin, à Saint-Leu-la-Forêt. Et vous faites l'expérience du territoire qu'ils traversaient pendant la guerre, et vous vous rendez vous-même, vous faites la traversée à pied à Paris que faisait Alex, parce qu'il évitait de prendre le métro pour pas se faire attraper, et vous faites la même traversée, enfin la même expédition à Saint-Leu-la-Forêt où était stationné Otto.
Bien sûr, c'est pour les besoins de la rédaction, je me suis rendu dans de nombreux endroits, j'ai voulu expérimenter, j'ai voulu voir les endroits où ils avaient vécu, où ils avaient passé du temps. Parfois de façon tragique, parfois de façon plus prosaïque. Et je me suis efforcé de parcourir certains trajets. Et j'avais besoin de visualiser, de rendre un peu concrètes des choses un peu lointaines ou abstraites.
Oui, et finalement, ça me rappelle des poèmes de Georges Perec, c'est pas très germanique, hein, sur effectivement l'espace. Il dit « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés, etc. » Et que ces lieux n'existent pas, finalement. Et au fond, votre recherche, me semble-t-il, vous dites à un moment donné, page 355, que, au fond, vous vous déclarez forfait sur cette recherche historique et vous avez une parole assez sage et un peu décourageante en disant « ma foi, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vraiment on peut retrouver des traces de ce passé ?»
Oui, mais c'est... Comme dans toute quête, une fois que les survivants ont disparu, on est confronté à une zone d'incertitude. Là, il y avait somme toute assez peu de traces. Peut-être que si j'avais cherché plus longtemps, j'aurais pu en trouver plus. La réalité, c'est que j'ai passé 10 ans et qu'à un certain moment, effectivement, j'ai dit stop. Et je me suis dit que j'allais vivre avec ce roman-là.
Et avec cette incertitude.
Avec cette incertitude.
Oui. Et au fond, vous dites aussi, pour finir, que c'est un roman de votre génération, puisque vous dites nous sommes d'une génération post-historique ou ahistorique, je ne sais plus comment vous le dites.
Oui, post-historique, au sens où effectivement, moi je suis né en 1974. Je fais partie de cette génération qui se passionne pour la vie de leurs grands-parents, qui aimeraient savoir ce qu'ils ont fait pendant la guerre, comment ils ont vécu ça, alors que nous... Nous sommes une génération, bon, bien sûr, chaque génération a ses problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème pour nos générations, mais si on les compare aux événements tragiques qui ont bouleversé ceux qui ont traversé une, voire deux guerres, nous sommes une génération tout de même, il faut le reconnaître, qui vit dans un certain confort, malgré toutes les incertitudes.
Oui. Merci. Stéphane Guedicke, d'être venu nous parler de cet ouvrage, Mémoire fantôme, aux éditions Passage. C'est un livre de suspense, de mémoire, de réflexion. Il est tout ça à la fois. Et donc, c'est un roman passionnant qu'on recommande chaudement au lecteur.
Merci beaucoup, Yankel.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.